et surtout des très anciens pasteurs. Faut pas tout mélanger, hein. Favre, c'est Favre, Perrault, c'est Perrault. Voilà. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, je lis ce qui est écrit sur votre feuille. Le glaive de l'esprit, point. Je répète. L'armure du chrétien, deux points. Le glaive de l'esprit, point. On peut fermer le rideau, merci beaucoup. Vous avez eu une très belle série sur l'armure du chrétien, ou littéralement, la panoplie du chrétien. Éphésiens 6, 10 à 18. Le technicien était un peu surpris de voir mon premier diapo pour conclure. Il faudra être patient ce matin, chers amis, mais regardez, nous concluons ce matin une petite série sur l'armure du chrétien. Et nous avons des verbes clés dans ce passage que nous voulons rappeler ce matin avant toute chose. Des verbes clés qui sont soit dans l'original au participe présent, mais qu'on traduit toujours par des impératifs en français parce que ça sonne un peu moins bien. Vous fortifiant. Alors, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est une église à Éphèse qui a besoin de se fortifier face aux réalités de la vie, des environnements pas évidents. Revêtez-vous. On se fortifie dans notre relation avec le Seigneur, jour après jour, semaine après semaine. Mais on doit aussi se revêtir de certaines réalités, saisir l'armure, tenez ferme face à ces réalités quotidiennes dont chacun vit une réalité jour après jour. Et vous prendrez toujours, prenez toujours, recevez. Alors, vous vous souvenez très bien, n'est-ce pas, de ce que vous avez entendu. Alors, juste un petit rappel de ces armes. Il y a le casque du salut, le bouclier de la foi, pardon, l'épée de l'esprit, point. Ensuite, il y a la ceinture, la vérité, les chaussures, merci beaucoup. La cuirasse, c'est parfait, vous avez parfaitement suivi. Mais attention, ce qu'on oublie quelquefois, c'est le verset 18. Immédiatement après avoir saisi cette armure, toutes ces armes, l'apôtre Paul nous dit « prier, intercéder, demander ». Le rôle clé de la prière dans le combat quotidien, si je puis dire ainsi, ne le sous-estimons pas. Pourquoi ? Étonnamment, à deux reprises, dans ce passage, l'apôtre Paul parle du diable. Intéressant, alors que l'apôtre Paul ne mettra pas tous les versets dans chaque épître, la réalité d'un adversaire, d'un malin, à deux reprises, il y a les ruses, littéralement, les guet-apens du diable. Et puis il y a aussi, et c'est pour ça qu'on prend le bouclier, les traits enflammés qu'il décoche régulièrement contre les chrétiens, contre l'église de Jésus-Christ, des églises qui vont être assez malmenées. Alors nous commençons ce matin par le dernier, justement, et nous avons le glaive de l'esprit, point. C'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, mes amis, comprenez-moi bien, on peut faire 15-20 messages sur ce thème. Inépuisable. Donc, j'ai fait un choix ce matin. Est-ce que vous réalisez quelque chose ce matin qu'aux environs de 1150, Pierre Valdo, les Vaudois, les Valdotins, traduit pour la première fois dans l'histoire une Bible en franco-provençal, en 1150. Il meurt en 1206. Grâce à ce travail des marchands ambulants de Lyon, remarquables vaudois, des colporteurs, ils vont permettre, pendant la réforme, la première traduction française, la Bible d'Olivetan. Est-ce que vous comprenez qu'en 1300 et quelques, John Wycliffe, pour la première fois dans l'histoire, va traduire le Nouveau Testament en anglais. Et que deux siècles plus tard, William Tyndale va traduire toute la Bible à partir du grec et de l'hébreu. Et ce matin, dans mes mains, j'ai un Nouveau Testament. Si vous étiez au Burkina Faso ce matin, au fin fond du Burkina Faso, vous avez des gens de Wycliffe, ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur la traduction du Nouveau Testament. La parole de Dieu. Et voilà qu'un dimanche après-midi, il y a une célébration, une dédicace, pour la première fois en 2015, des gens vont avoir un Nouveau Testament dans leur langue. Ils font des sauts comme ça. Et un père de famille a dit, j'en ai acheté 10 pour toute ma tribu. Mes enfants, mon oncle, ma tante. 2015. Et moi, j'ai apporté ma caisse à outils ce matin. Parce que, voyez-vous, je suis très gâté. Moi, je suis pasteur, hein, c'est normal, quoi, que j'amène des Bibles. Mais vous avez ici la Bible d'études, second 21. Vous avez la Bible du semeur d'études, magnifique. Les notes, les introductions au livre, magnifique. Un peu plus pointu, on monte d'un cran, la nouvelle Bible second, Bible d'études. Mais peut-être ça ne vous intéresse pas, alors vous avez d'autres Bibles. La Bible Chouraki, quelqu'un me l'a demandé ce matin. Vous avez la Bible de Jérusalem, avec des notes magnifiques. Vous avez la nouvelle version de la TOB et la NBS. Voilà. Mais peut-être vous dites, non, c'est pire, c'est compliqué la Bible. Alors on va prendre des versions plus récentes. Français courant. On va prendre Parole de vie. Alors là, tout le monde va comprendre la Bible avec ça. Et puis, la toute dernière version, la Bible du semeur révisée. Parce ce qui est pertinent, c'est qu'elles sont toutes révisées, les Bibles. Et puis, quand vous partez en voyage, vous glissez une Bible de voyage. Est-ce qu'on est reconnaissant tous les jours d'avoir à profusion l'épée de l'Esprit, ou qui est la parole de Dieu? L'épée, on le trouve dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Et oui, Pierre a sorti son épée, c'est le même mot. Et Jésus lui a répondu, si vous prenez l'épée, vous allez mourir par l'épée. Des gens armés d'épées viennent arrêter Jésus. Hérode tue par l'épée Jacques. Mais dans Romains 8, il nous a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui va nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ? Est-ce que c'est la famine? Est-ce que c'est des attaques diverses? Est-ce que ce sera l'épée, comme le vivent beaucoup de chrétiens aujourd'hui? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Hébreux 11 nous rappelle aussi que certains ont échappé au tranchant de l'épée, alors que d'autres ont été mis à mort par l'épée. Mais voici le texte parallèle à Éphésiens 6, 17. J'apprends ce matin que la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante que toute épée, même mot, elle juge. Nous avons une parole, la Bible, qui est une parole vivante, efficace et pénétrante au plus profond de nous, parce que inspirée de Dieu, elle nous parle jour après jour. Ainsi donc, l'apôtre Paul demande aux chrétiens d'Éphèse, non pas d'avoir une épée littérale, n'est-ce pas, mais d'avoir entre leurs mains la parole de Dieu. Qu'est-ce que les églises du premier siècle avaient entre les mains? qu'avons-nous aujourd'hui entre les mains? Pourquoi cette parole de l'Esprit est-elle si importante, cette parole de Dieu? Parce que Jacques, remarquable, petite lettre Jacques, que Luther n'aimait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais Luther a dit « L'épître de Jacques est une épître de paille. » Parce qu'il y a le problème de la foi et des œuvres. Elle est la parole de vérité, elle est la loi parfaite. C'est la loi de liberté et c'est une loi royale. C'est merveilleux ce que nous rappelle le Jacques, vérité parfaite, liberté royale. Et Jacques nous dit ce matin, il vous dit ce matin, chaque matin, quand vous ouvrez ce livre, accueillez la parole comme tout à nouveau, cette parole qui est plantée en vous. Prenez l'épi de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, l'apôtre Pierre nous dit, et ça fait 2000 ans, que cette parole est vivante, comme l'épître aux Hébreux, elle est permanente de Dieu. Et que disait Moïse au peuple de Dieu? Moïse disait, vous savez finalement, cette parole n'est pas au-dessus de tes forces. Elle n'est pas hors de ta portée, elle est tout près de toi. Ça, c'est encourageant. Je n'ai pas encore tout compris dans la parole de Dieu après 50 ans de lecture des Saintes Écritures. Mais que de découvertes, que d'enrichissements. Elle est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Il n'avait que les 5 premiers livres de la Bible. Alors, mes chers amis, soyons concrets. Prenons 4 exemples maintenant pour nous montrer que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Moi, je suis interpellé de Josué 1, ce que Dieu dit à Josué. Et n'oublions pas une chose, on est vraiment dans l'armure du chrétien au sens propre, parce que Josué, c'est un général, et Josué devra conquérir la terre promise. La terre promise, elle est donnée par Dieu, mais il faut la conquérir. C'est comme la vie chrétienne. On la reçoit par grâce, mais il faut la vivre tous les jours. Donc, au cœur des paroles de Dieu à Josué, fortifie-toi, prends courage, ne te laisse pas abattre. Ce ne sera pas facile. Et il y aura des difficultés, mais au cœur de ta vie, au cœur de ta vie, que ce livre ne s'éloigne jamais de toi. Médite-le jour et nuit et mets-le en pratique avec cette fameuse phrase que l'on retrouve dans Deux Chroniques, « Alors tu réussiras ce que tu entreprendras. » Nous avons la parole de Dieu quotidienne, médite-la jour et nuit, mets-la en pratique, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et puis, David à Salomon, un de mes textes préférés. C'est quand même extraordinaire, sur son lit de mort. Il convoque Salomon et lui dit « Que le Seigneur te donne du bon sens, de l'intelligence. Salomon, mon fils, observe la loi du Seigneur. Alors tu réussiras si tu veilles à mettre en pratique. » David, dans ses derniers moments, dit en fait une chose, Salomon, tu vas être roi, tu auras de grandes responsabilités, qu'au cœur de ta vie, la parole de Dieu soit là jour après jour. Le jour où elle était remise au placard, la vie de Salomon a basculé et elle a coulé. Mais nous voici dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Voici notre Seigneur Jésus-Christ qui parle à ses disciples. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Mes chers disciples, juste avant de partir à Gethsémané, Jésus leur dit, demeurez en moi, demeurez dans mon amour, et que mes paroles demeurent en vous. Tout ce que je vous ai enseigné pendant 3 ans, bien sûr, les paroles de Jésus sont paroles de Dieu. Et ce magnifique conclusion de Luc 24 qu'on pourra lire à Pentecôte. Et ça, c'est vraiment une conclusion merveilleuse où nous avons au cœur de la conclusion de Luc 24 la place de la parole de Dieu. il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures et il leur dit, vous savez, tout cela était déjà écrit de moi dans l'Ancien Testament. Il laisse ses disciples avec cet accomplissement des Écritures, que ces paroles demeurent dans le cœur de ses disciples, qui auront l'immense tâche de fonder des églises. Mais j'aime beaucoup ce verset dont nous avons vraiment besoin aujourd'hui. Il leur ouvrit l'intelligence pour que nous puissions mieux comprendre les Écritures. Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous donnerai mon esprit, l'esprit de vérité qui vous enseignera toutes choses. Et c'est bien grâce à l'esprit que je peux un peu mieux comprendre, semaine après semaine, les Écritures. Mais mes amis, dans l'Ancien Testament, nous avons deux perles dont je vais vous dire quelques mots maintenant. Tout d'abord, la première perle. On a classifié à l'Institut biblique les psaumes, des psaumes royaux, des psaumes de louange, et nous avons les psaumes de la loi, psaume 19. Il faut quand même le savoir une fois encore ce matin, la loi du Seigneur est parfaite. La parole de Dieu me rend la force de vivre au travers de réalités bien difficiles de la vie. Tout ce qui est dit, c'est digne de confiance. Elle rend sage. Les commandements du Seigneur sont limpides, ils aident à y voir clair. Seigneur, que dois-je faire? Quelle grande décision dois-je prendre dans ma vie? Les commandements du Seigneur sont limpides, ils aident à y voir clair, ils font briller les yeux. Elle remplit le cœur de joie. La loi du Seigneur est vérité. Elle est plus précieuse que l'or, plus délicieuse que le miel. Ton serviteur, Seigneur, en tire instruction, un immense profit. Joie limpide, ça ouvre les yeux, ça nous conduit dans la vie. L'épée de l'Esprit, la parole de Dieu vivante. Et puis, il y a un autre psaume de la loi dans les psaumes, c'est le, bien sûr, 119. Attention, voilà le psaume 119. C'est pas merveilleux? Qui le connaît par cœur? On a entendu un verset ce matin. Comment le jeune homme ou la jeune fille rendra-t-il pur son chemin en suivant ta parole? Combien y a-t-il de strophes? Je vais déjà commencer à replier. Combien de strophes? Ah, ben je vais vous aider. Attendez. Ouh, oh non. Ah, Pierre, pas de l'hébreu ce matin. 22 strophes fois 8 versets égale 176. Vous le saviez? Oui, mais ce que vous ne saviez pas, c'est ça. Ha ha. Vous voyez le 1? Il y a une première lettre de l'alphabet hébraïque, Aleph. Disons, pour être français, A. Verset 2, A. Verset 3, A. Verset 4, A. Ça fait dire que dans l'alphabet hébreu, vous avez 22 strophes, 22 lettres. 22 fois 8, ça veut dire que les 8 premiers, c'est toujours, ça commence par A. Deuxième strophe, Bet, ça commence toujours par B. Troisième strophe, Dalet, ça commence toujours par D. C'est pas beau, ça? Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, juste en passant, excusez-moi, mais on est entre nous, c'est un culte 4D. Il y a 8 mots en plus, 8 mots en hébreu pour dire la parole. Vous connaissiez la Torah, bien sûr, mais aussi les Pikudim. Mais il y a aussi les Hukim, les Mishvot, les Mishpatim, la Dabar, Imra et Edot, ordonnance, statut, parole, mais c'est une merveille. Une composition littéraire, une merveille. Je n'ai retenu que 4 versets sur 100. Alors voilà, avant, ta parole, ta loi, tes statuts. Mais quelle est l'attitude du psalmiste en son temps? Je médite, je m'attache, je cours, je me réjouis, je fais mes délices, je l'aime, je n'oublie point, je garde, je suis avide. Ô Seigneur, conduis-moi dans tes paroles, enseigne-moi à fermer mes pas dans ta parole. Oh, mais il a soif, il aime cette parole. Ta parole me rend plus sage que mes maîtres. Bon, vous ne pouvez pas dire ça à l'Uni ou au lycée, mais quand même, à force de lire la parole, d'être au contact de cette parole de vérité, j'acquiers de la sagesse, de l'intelligence. Mais si ta loi n'avait fait mes délices, aujourd'hui, je serais dans la misère. Aussi affermis chaque jour mes pas dans ta parole. Et évidemment, psaume 119, 105, ta parole est... C'est un peu calme, hein, là. Ta parole est une... J'ai à peu près compris, merci beaucoup. Mais surtout ce matin, le beau-fils me regarde au cas où. Ce matin, surtout, moi, je vais vous dire quelque chose. De plus en plus, mon but, c'est de penser à Jésus. Et Jésus, on a dit un jour, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? C'était le maître par excellence. Mais un jour peut-être, quelqu'un va vous dire, mais comment connais-tu tous ces textes, lui qui n'a pas fait HEP Pro ou je ne sais quoi? Mais simplicité, le temps de prendre connaissance des Saintes Écritures. Jésus n'a cessé de répondre par les Écritures. Alors écoutez, avec sagesse, mais avec fermeté. Premièrement, Matthieu 4, première attaque de l'adversaire, les très enflammés, Éphésiens 6. Si tu te prosternes devant moi, si tu changes ce pain, si tu te jettes du haut du temple, le Christ avait la parole de Dieu et il a répondu par la parole de Dieu. Quand les pharisiens disent « Tes disciples sont en train de manger ce qui est interdit le jour du sabbat », n'avez-vous pas lu ce que David a fait? Lui-même a mangé des pains de proposition, etc. Jésus-Christ répond par l'Écriture. Jésus enseigne en s'appuyant sur les Écritures. Il utilise le glaive de l'esprit, non pas dans sa main, mais la parole de Dieu au cœur de sa vie. Jésus interpelle et corrige devant les Sadducéens. À la résurrection, il sera le mari de... Vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Et puis Jésus-Christ, nous l'avons entendu ce matin par le récit de la montée à Jérusalem, Jésus accomplit les Écritures, sa mission, sa mort, sa résurrection. Tout ce qui est écrit à mon sujet dans les Écritures et lui-même, par excellence, les a appliqués. Alors, conclusion. Prenez l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, comme nous dit Jacques, traduction Tob, ne vous contentez pas d'être des auditeurs, mais soyez des réalisateurs de la parole de Dieu. C'est tellement important de la mettre en pratique. Et vous connaissez par cœur ce texte, notre texte préféré, le grand texte du monde évangélique, de la parole de Dieu, 2 Timothée 3,16. Toute écriture ou toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et mes amis, elle est utile. Vous entendez ? Elle est utile chaque jour pour enseigner, réfuter, il faut quelquefois réfuter, redresser, pardon, se relever, apprendre à mener une vie qui plaise à Dieu, conforme à la volonté de Dieu. Et j'aime beaucoup ce texte parce qu'il nous est dit, Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit pour nous instruire, parce que la parole de Dieu, grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. J'avais terminé mardi soir ce verset, et mercredi matin, je devais préparer un enterrement. Et vendredi à 1h30, de pouvoir apporter une parole de réconfort. Car elle est réconfort. Et surtout, dans le temps qui nous conduit à Pâques, de rappeler à ces gens, une nouvelle fois, pour une fois confrontés à la réalité, l'espérance. Et la Bible est le message par excellence de l'espérance. Quel défi pour nous aujourd'hui. Éphésiens 6, 10 à 18. Nous repartons avec toute l'armure. Parce qu'aujourd'hui, il y a de grands défis devant nous. L'Église de Jésus-Christ intramuros, la communion fraternelle, la place de la parole de Dieu dans nos églises, dans nos communautés, mais aussi de pouvoir la communiquer, la partager à tous les niveaux, à nos étudiants, dans la réalité professionnelle de la vie, dans l'âge avancé, dans nos hôpitaux, partout. Quel défi aujourd'hui. Cette épée, ce n'est pas Star Wars, c'est simplement la parole de Dieu que nous voulons utiliser avec sagesse, avec discernement. N'oublions pas, il y a à deux reprises, pour le contexte d'Éphèse, les ruses du diable. Ce n'est pas anodin. Et on a tendance quelquefois un peu à l'oublier. Alors, Église de Villars, fortifie-toi. Saisis toute l'armure. N'oublie jamais ce glaive de l'esprit, cette épée, la parole de Dieu. Tu en es gavé. En Afrique, certains l'attendent depuis des centaines d'années. Et grâce au travail de Wycliffe, dans 15 jours, après 20 ans de travail, ils auront le Nouveau Testament, mes amis. Et nous l'avons en abondance pour notre instruction, pour notre bien, pour aller de l'avant. Ne sous-estimons pas le verset 18, la prière, intercession. Sur ce fait, nous allons quitter cette salle en nous inscrivant pour le samedi après-midi de Pâques. Ça s'appelle comment, beau-fils ?
Service.
Service Pâques. On est tellement bien armés qu'on ne peut que sortir. Avec courage. Avec confiance et avec assurance. La parole de Dieu. Merveilleux. Elle nous est parvenue jusqu'à ce jour. Des érudits nous la préparent comme tout à nouveau. Mais quelle richesse entre les mains. Saisissons cette arme. Prenons le temps de la méditer, de l'écouter. Vous serez enrichis et vous enrichirez les autres. Merci.